Bon matin. J'espère que vous allez bien. Je saisis l'occasion, pour vous souhaiter la bienvenue si vous êtes de passage avec nous. Je saisis l'occasion aussi pour... j'ai vu des gens qui arrivent, j'allais dire bienvenue, bon retour à Marie-Pierre, qui est de retour cet été, qui est arrivé dernièrement, la semaine passée? OK. Bon retour Marie-Pierre, on est content de te retrouver. Et puis, je voulais dire bye-bye aussi à deux personnes qui s'en vont, Pascal-Olivier Prémont qui s'en va cette semaine, Pascal, c'est ça? Pour une formation militaire. Et puis, fait qu'on voulait te saluer... Et puis, tantôt, on priera en même temps pour que Dieu t'accompagne là-bas, Pascal. Et puis, Dave Wool aussi. You, Dave? Je le vois. OK, il est là-bas. Dave aussi, il s'en va cet après-midi pour une formation à Nicolet. Alors, que Dieu vous accompagne là-bas. Vous savez, on a terminé... on va prier pour vous dans quelques instants, que Dieu vous accompagne. On a terminé la semaine dernière l'Épître de Jacques. Hein? À travers un an, on a réussi à faire l'Épître de Jacques au complet. Je vous suggère ce matin qu'on commence une nouvelle mini-série sur Philémon. Si je prends un an pour passer à travers Philémon, peut-être que ça va être trop long. Mais je vous suggère que dans les prochains dimanches, du moins, fort probablement les trois dimanches à venir, on aura l'occasion de plonger nos yeux, nos cœurs dans ce que Dieu nous a laissé dans l'Épître à Philémon. Ce matin, je vous suggère qu'on en fasse l'introduction, qu'on va regarder le contexte de tout ce qu'il y a, mais on commencera même pas à lire ce matin, si je peux dire, dans Philémon. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on va se diriger. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, et après ça, on va ouvrir les Écritures ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Comme les chants qu'on vient de chanter, Dieu, ça nous rappelle toute ton œuvre. Ça nous rappelle ce que tu as fait. Ça nous rappelle où on est, où on était. Et on veut te louer pour ça. On veut te louer parce que c'est toi qui es saint. C'est toi qui nous as aimés le premier, qui est venu nous chercher. Ce matin, Seigneur, on est ici. On veut ouvrir ta parole. On veut te rencontrer parce que tu nous cherches. Et je te prie que tu puisses nous accompagner dans cette lecture de ta parole, pour que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous, dans nos cœurs, à travers ta parole. Par la même occasion, Seigneur, on veut te prier, placer entre tes mains Pascal, Olivier, Dave, qui s'en vont, que tu les accompagnes, Seigneur, là où ils vont être, que tu leur donnes d'être fidèles, Seigneur, avec toi, et d'être des lumières aussi. Dis en nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. On m'a nommé utile. Vous me connaissez peut-être sous mon autre nom grec, Onésime. J'ai récemment fait une rencontre complètement inattendue. En fait, cette rencontre-là a transformé ma vie. Laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Je suis né esclave. Dans une famille qu'on pourrait fort probablement qualifier, au temps où nous sommes, riche. Mes maîtres Philémon et Opphia avaient une grande maison. Ils avaient beaucoup de biens, beaucoup de choses à entretenir. Et j'imagine quand je suis né, mes parents m'ont donné le nom de Utile parce qu'ils se sont dit, il va être utile à nos maîtres. Alors, j'ai grandi dans ce contexte-là comme un esclave. Comme la majorité des esclaves au temps où je suis dans l'Empire romain. Vous savez, être esclave à ce moment-là dans l'Empire romain, c'est un peu moins pire que v'là quelques temps. Parce que v'là quelques années, les esclaves étaient des objets, étaient des biens au maître. Mais au temps où ce que je suis présentement, j'ai quelques droits. J'ai quelques... je suis pas considéré nécessairement comme un objet. Puis en plus, mes maîtres, ils prennent bien soin de moi. Je manque de rien. Mais je rêve quand même de liberté. J'en ai assez qu'on me traite comme un esclave. Je regarde mes maîtres et puis il me semble qu'ils sont bien, eux. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. j'ai envie de liberté, moi aussi. J'ai envie d'être un homme libre. Le deux tiers des hommes dans l'Empire, présentement, sont des hommes libres. Oui, il y en a un tiers qui sont encore esclaves, mais moi, je rêve de liberté. Vous savez, quand je rêvais de liberté, j'ai commencé à penser à un plan comment m'échapper de mes maîtres. J'ai commencé à penser à comment faire ma grande évasion. Et là, je m'étais dit, je pourrais ramasser les biens de mon maître, certains objets qui sont de grande valeur, qui vont bien se revendre, puis un peu d'argent, puis je vais me sauver avec ça. Et je vais prendre ma vie en main. Je vais m'offrir la liberté. C'est ce que j'avais fait. Le jour venu, j'ai ramassé ce que je pensais avoir de besoin, puis je suis parti. Je me suis sauvé de chez mes maîtres. J'étais enfin libre. Je pouvais courir où je voulais. Il y avait des voyages que je voulais faire, que je me suis permis. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? Je m'étais rendu compte que finalement, j'avais peut-être pas assez d'argent pour vivre suffisamment longtemps. Et là, mon rêve peut-être de me rendre jusqu'à Rome, je me suis rendu jusqu'à là-bas, mais j'avais plus d'argent. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai encore un statut d'esclave, je peux pas travailler aussi facilement. Puis en plus, mes maîtres ont sûrement mis des gens à ma poursuite, il faut que je me cache. Alors j'ai dû faire à ce moment-là probablement des petits vols, des choses qui faisaient en sorte que j'ai pu me nourrir, que j'ai pu manger. Et rapidement, je me suis retrouvé en prison. Du fond de ma cellule, j'ai entendu chanter. C'est quoi ces chants-là? Qui peut bien chanter en prison? Ce qui était un peu étrange, c'est que ça me semblait des chants que je connaissais. Parce que mes maîtres qui habitaient à Colosse, il y avait une maison assez grande, hein, comme je vous disais. Et puis le dimanche matin, ils recevaient des gens un peu bizarres qu'on appelle des chrétiens. Et puis, ces chrétiens-là, le dimanche matin, ils chantaient des cantiques, puis ils prenaient le temps de lire différents textes. Mais ces chants-là que j'entendais présentement me rappelaient des chants que j'avais déjà entendus. Non seulement ça, mais j'ai entendu parler d'un homme qui est en prison, que mes maîtres avaient déjà parlé. Paul. On le connaissait anciennement par Saul de Tarse. Un homme un peu bizarre, au début, il persécutait les chrétiens, il les tuait, il est lui-même devenu chrétien par après. Mais je me suis dit que cet homme-là avait quelque chose de particulier, puis qui pourrait sûrement m'aider. C'est près de cet événement-là que cette rencontre inattendue était sur le point de se produire. Onésime, il s'appelait Utile. Onésime, on ne connaît pas les Écritures, comment est-ce que Onésime, il s'est passé entre son évasion de chez ses maîtres jusqu'au moment où il a rencontré Paul en prison. Mais on connaît de par les Écritures, à travers le contexte de Philémon, que Onésime a volé ses maîtres, qu'il s'est sauvé et par après qu'il a rencontré Paul. Onésime s'apprête à faire une rencontre qui a changé sa vie. Une deuxième chance. Qui ne voudrait pas, à un certain moment donné de sa vie, avoir une deuxième chance? Les tentatives de liberté qu'on essaie de se créer pour nous-mêmes, ou bien nos échecs par-dessus échecs, nos erreurs par-dessus erreurs, nos péchés par-dessus péchés, finissent que par nous conduire à un cul-de-sac. Comme probablement Onésime s'est retrouvé dans un cul-de-sac lui aussi. Et dans ce cul-de-sac-là de nos vies, qu'est-ce qu'on peut faire? On voudrait cette deuxième chance-là. On voudrait pouvoir revenir et dire si j'avais su, ou si je pouvais avoir une deuxième chance pour repartir. Ces cul-de-sac-là de nos vies nous apportent beaucoup de découragement, beaucoup de désespoir, beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité. Puis on soupire toute notre vie après quelque chose de plus. Dieu veut te l'offrir, cette chose-là. Dieu veut t'accorder l'ultime deuxième chance, la liberté. C'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe 53:6. On va commencer avec ce verset-là. Le premier tome de Philémon, ou on pourrait dire d'Onésime. J'aimerais ce matin qu'on se place dans les souliers d'Onésime. Parce que dans l'épître à Philémon, on pourrait dire qu'il y a trois personnages principaux. Philémon, qui est le maître, qui possède cette grande maison, plusieurs biens, ce maître avec sa femme, Opphia, et puis ils ont une église dans leur maison, qui sont les Colossiens, en quelque sorte. L'épître aux Colossiens est adressée à eux. Et un autre personnage qui est Onésime, comme j'ai dit, qui veut dire utile, puis Paul. Dans cet épître-là, on va découvrir beaucoup de choses, mais ce matin, j'aimerais qu'on se place dans les souliers d'Onésime. Puis le tome 1 de la vie d'Onésime, je l'ai intitulé « J'ai tout foiré ». Hein? On vous comprenait bien le sens. Puis, vous savez, en quelque sorte, j'aimerais ça qu'on pousse notre réflexion avec... C'est le premier tome de chacune de nos vies. On a besoin d'une deuxième chance. On a besoin de l'ultime deuxième chance. Mais il faut commencer avec le tome 1, j'ai tout foiré. Imaginez que vous allez au Louvre, il y a plusieurs arts ou plusieurs choses qui sont exposées. Il y a des toiles, par exemple. Et là, vous allez voir la toile, par exemple, la Joconde. Imaginons qu'on peut s'approcher. Et là, vous vous collez le nez dessus. Wow! La Joconde! Hein? Puis tout ce qu'on voit, c'est quelques couleurs, puis notre perspective est grande de même. Le problème, quand on regarde les œuvres d'art de cette façon-là, c'est qu'on manque d'une chose. C'est quoi? La perspective. Nos vies terrestres manquent de perspective. Quand on donne la perspective à nos vies, on réalise le tome 1 de nos vies. J'ai tout foiré. Onésime était un homme qui regardait sa vie comme ça. Puis il regardait sa liberté comme ça, puis il manquait de perspective sur ce qui était l'ultime liberté, l'ultime deuxième chance que Dieu seul peut accorder. Ésaïe 53:6 nous dit, « Nous sommes tous errants comme des brebis. » Qu'est-ce que chacun d'entre nous on fait? Chacun suivait sa propre voie. Onésime, quand il s'est mis à rêver de liberté, quel plan est-ce qu'il a conçu? Qu'est-ce qui l'a motivé à pousser, à agir comme ça? On ne connaît pas tous les détails. Mais il a suivi sa propre voie, qui l'a mené bien loin de la liberté. Tournez avec moi dans Ecclésiaste. Je veux qu'on commence avec Ésaïe 53 parce que c'est la déclaration que Dieu fait de chacune de nos vies. On suit notre propre voie. On est égaré, on est perdu. Dans Ecclésiaste, chapitre 3. Vous êtes peut-être là ce matin puis vous dites, tome 1, j'ai tout foiré, mais attends un petit peu, David, là. Il me semble que je regarde autour de moi, puis il y a des gens qui réussissent dans la vie. Mais ça se fait. Je mentirais si je vous disais que, effectivement, personne ne peut réussir s'il n'y a pas Dieu dans sa vie. Il y a des choses terrestres, humainement, qu'on peut réussir, qui sont des réussites, mais encore là, il faut les mettre en perspective. Je peux réussir dans mon mariage, même si je ne connais pas Dieu. Je peux réussir aussi dans ma carrière, en finance. Je peux réussir dans mon entreprise, même si Dieu n'est pas dedans. Hein, peut rapporter des revenus. Je peux réussir dans beaucoup d'aspects de ma vie. Mais encore là, il faut déjà avoir une juste perspective de ce que c'est la réussite, de ce que j'ai réussi. Philémon et Opphia étaient des gens riches que je disais tantôt. Dieu ne leur a jamais reproché d'être riche. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a de l'argent d'en avoir. À l'inverse, on ne pourrait pas dire que c'est plus spirituel d'avoir fait vœu de pauvreté. C'est faux aussi. Encore là, c'est quelle perspective est-ce que j'ai de ce que Dieu m'offre dans ma vie? Dans une juste perspective, regardez Ecclésiaste 3:13. Si un homme mange, boit et jouit du bien au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Est-ce que je peux réussir dans certaines choses dans ma vie? Absolument. Puis même Ecclésiaste va dire, mais c'est une bonne chose. C'est même Dieu qui le donne quand on peut en jouir. Mais tournez aussi avec moi dans le chapitre 9. Si Philémon et Opphia, je vais arrêter de la dire, OK? C'est un petit peu plus difficile. Philémon et compagnie. Mais si ces maîtres-là avaient réussi dans la vie, Onésime, lui, est-ce qu'il pouvait se plaindre sur son sort à journée longue? Il est né esclave. Est-ce que Dieu lui en voulait? Est-ce qu'il est né dans l'échec, puis il est né pour un petit pain, puis il n'aura jamais la liberté? Ben, c'est pas non plus ce que les Écritures nous disent. Oui, humainement, on peut réussir, mais il faut avoir la juste perspective. Oui, humainement, il y a des circonstances qui peuvent être difficiles, que l'on peut vivre. Regardez avec moi, Ecclésiaste. Chapitre 9, les versets 11 et 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Il y a des circonstances qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. On est né dans un pays d'abondance. On peut louer Dieu pour ça. Ceux qui ne sont pas nés dans le même contexte doivent avoir une juste perspective de la perspective éternelle pour réaliser que tout ne prend pas son sens sur la vie ici sur terre. Onésime, il est né esclave. Il a voulu probablement faire sa propre vie, se donner lui-même une deuxième chance. Mais on a vu où ça l'a mené quand il a décidé de le prendre en main. Des fois, c'est possible qu'on se soit planté tout seul, hein? Des fois, c'est possible qu'on fasse des choix dans nos vies qui nous mènent à des endroits où on s'est planté. Comme je disais tantôt, le tome 1, j'ai tout foiré. On peut résumer ça à une vérité des Écritures. Quoi qu'il en soit, qu'on soit des gens qui avons réussi humainement, qu'on soit des gens où peut-être on pourrait dire les circonstances sont plus difficiles, prenons toutes nos vies puis ramenons-les. Les Écritures, la vérité, ce que les Écritures nous disent, c'est que tous ont péché. Tous ont péché. On a tous manqué notre première chance avec Dieu. Qu'on ait réussi ou qu'on ait manqué, on a tous manqué notre première chance avec Dieu. Ecclésiaste 7:20 dit, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. 1 Jean 1:8 dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. On arrive d'où et on va où? Quelle est la perspective de notre vie que l'on a? Si on regarde nos vies comme Onésime le faisait, puis qu'il a décidé de prendre sa vie en main, ça ne l'a pas conduit à une liberté. Y a-t-il plus que nos quelques années terrestres pour nous donner une juste perspective de ce qui est réussi ou raté? On a perdu le sens de nos vies, ou on réalise que le sens de nos vies est perdu quand on réalise qu'on est séparé de Dieu. Parce que nos péchés nous séparent de lui. Il y a beaucoup plus fatal que de réaliser nos quelques circonstances humaines qui peuvent être difficiles, que de réaliser ma destinée éternelle. Quand je réalise que dans le fond, on est tous nés esclaves. On est tous nés esclaves. On veut tous prendre notre vie en main. On veut tous se donner une deuxième chance. Mais on est tous esclaves. Est-ce que vous soupirez après la liberté? Tome 2. Heureusement, il y a un tome 2, hein? C'est pas la fin du livre. Dieu te tend la main. Quand je réalise que je suis séparé de Dieu, quand je réalise que je suis né esclave, moi aussi, dans le péché, Dieu te dit, je te tends la main. Vous pourriez peut-être dire, oui, mais moi, je suis libre. C'est quoi l'esclavage aujourd'hui? Hein, on en comprend à peine le sens parce qu'on ne le vit pas. Tournez avec moi dans Jean 8. C'est quoi l'esclavage, David? Je suis pas esclave, moi. Je suis libre. Je fais ma propre liberté. Je m'organise bien tout seul. Imaginons pendant un temps où on revient à cette rencontre complètement inattendue entre Paul et Onésime. Imaginons Paul pendant un instant. Onésime, tu vas faire quoi maintenant? Regarde les hommes qui sont en prison. Onésime, il est soit venu visiter Paul en prison, soit qu'il a été emprisonné. Quoi qu'il en soit, ils sont ensemble. Là. Et Paul peut dire à Onésime, regarde les hommes là qui sont dans les cellules. Est-ce que tu vois la conséquence de leur choix? Est-ce que tu vois là où ça les leur a mené, leur vie qu'ils ont voulu prendre en main? Est-ce qu'on réalise la conséquence de notre péché? Des fois, on a besoin de la perspective humaine pour projeter nos yeux beaucoup plus loin. Des fois, on a besoin de réaliser qu'on est dans une prison pour dire que finalement, mon cœur est aussi emprisonné. Si mes actions humaines m'ont mené à des conséquences négatives, mais mon état de pécheur m'amène à des conséquences beaucoup plus négatives. Est-ce que c'est par hasard qu'Onésime s'est retrouvé avec Paul? Absolument pas. Cette rencontre inattendue pour Onésime était attendu par Dieu. Pourquoi l'entonnoir s'est fermé jusque-là, Onésime? Pourquoi tes voyages t'ont mené jusqu'à moi? Faut-tu courir toute ta vie en fugitif pour être libre? Est-ce qu'on va courir toute notre vie en fugitif pour être libre si on est né esclave dans nos péchés? Les conséquences de la réalité éternelle, c'est que le cul-de-sac dans lequel on peut se placer à cause de nos péchés est beaucoup plus fatal, c'est celui d'une séparation avec notre Créateur. Vous avez trouvé Jean 8? Regardez à partir du verset 31. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru, c'était des Juifs qui se disaient, « Ouais, peut-être que Jésus, c'est la bonne personne en qui on peut placer notre foi. » Et là, Jésus leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Attends un petit peu, Jésus, là. Tu nous parles d'être affranchi. On n'a pas besoin d'être affranchi. On est déjà libre. Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Là, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est quoi? Est esclave du péché. Est-ce que tu crois ça? Si tu réalises que tu es esclave du péché, le tome 2 nous dit que Dieu te tend la main, que Dieu veut te rencontrer. Avant de lire dans Philémon, il s'est passé des circonstances avec Onésime. Onésime a changé sa vie. Sa vie a été changée par une rencontre inattendue. Parce que Dieu lui tendait la main. Parce que Dieu a mené l'entonnoir jusque vers lui parce qu'il voulait le rencontrer. Lui, il te tend la main, Dieu. Il t'offre réellement la liberté. Lui peut réellement t'affranchir. Peut-être que c'est les paroles que Paul pouvait dire à Onésime. Onésime, tu vas être libre. C'est Jésus-Christ qui t'offre la liberté. Tu te l'offrir toi-même, mais ta liberté sur terre vaut rien comparativement à l'ultime liberté. C'est une fois un médecin dans une ville en Écosse, un petit village, il y a plusieurs années même. Et ce médecin-là était un croyant de renom. Il était bien connu dans son village pour justement être un homme croyant. Et à travers les années, il rencontrait ses patients pendant plusieurs années. Et au moment qu'il est mort, on a pris son carnet où il gardait un record de ses patients. Et à plusieurs endroits, on voyait que certains noms étaient barrés en rouge. Puis à côté de ça, c'était écrit « Trop pauvre pour payer ». Ce médecin-là n'avait pas chargé certains patients parce qu'il était trop pauvre pour payer. Sa femme, la veuve, a voulu prendre ce carnet-là comme preuve et puis l'amener, prendre un avocat puis dire « Regardez, là, tous les comptes à recevoir, j'aimerais pouvoir en bénéficier ». Il a été statué par le juge que c'était impossible, puisque lui-même, le médecin, le médecin de ces patients-là, avait déclaré qu'ils étaient trop pauvres pour payer, ils ne pouvaient pas retirer ce qu'ils n'avaient pas payé. On doit réaliser qu'on est malade, qu'on est pécheur. On doit réaliser qu'on a besoin d'un médecin, Jésus-Christ. On doit réaliser aussi qu'on est trop pauvre pour payer. Dieu te tend la main. Mais tu es trop pauvre pour payer. Cherche pas à payer. Ce que Dieu a à t'offrir coûte trop cher. Dieu te tend la main. La liberté est possible par le pardon que Dieu accorde. La façon concrètement que Dieu nous a tendu la main à notre esclavage, c'est qu'il a envoyé son propre Fils. Est-ce que c'est un moyen concret, à votre avis, que de donner son propre Fils en sacrifice pour venir nous affranchir? Il ne pouvait pas avoir de prix plus cher payé que d'offrir son propre Fils. Je vais faire une petite parenthèse, OK? On met ça de côté. Paul est en prison. Une petite parenthèse, une petite application pour nous croyants. Paul est en prison. Et il y a un homme qui vient le voir. Paul est en prison, pas pour ses mauvais coups, hein, en passant. Il est en prison parce qu'il enseigne au nom de Jésus. Et on n'aime pas beaucoup ça à ce moment-là. Et là, il y a un homme, Onésime, qui vient le voir pour lui poser quelques questions. Et Paul lui explique que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'il peut obtenir la liberté puis être sauvé. Comment est-ce qu'un homme qui est en prison pour sa foi peut convaincre un autre homme d'avoir la même foi? Comprenez-vous? Paul était un homme drôlement engagé et drôlement convaincu en sa foi, en ce que Dieu voulait faire dans sa vie. La perspective de Paul étant enchaîné dans la prison, il était persuadé encore une fois que, oui, humainement, je suis dans les chaînes, mais je suis libre. Et il a dû amener cet Onésime-là à réaliser la même chose. Garde Onésime, je suis en prison. Mais il y a une liberté beaucoup plus grande que de sortir de ces chaînes-là ici puis se promener en ville. C'est la liberté que ta foi en Jésus-Christ peut t'accorder. Cette liberté seule que Dieu peut offrir. Quel cœur d'évangéliste je pourrais dire que Paul avait pour amener Onésime avoir la même conviction. Tournez avec moi dans 2 Pierre 3. 3. Je vous rappelle le 1. Vous ne l'avez peut-être pas oublié. J'ai tout foiré. Je suis pécheur. Je suis né esclave. Je suis fait. Et humainement, je ne peux pas m'en sortir. 2, la liberté est possible. La liberté m'est offerte parce que Dieu me tend la main pour m'affranchir. Il y a un texte que je n'ai pas lu, ne bougez pas, je vais juste vous le citer. Vous pouvez bouger, là, mais pas trop. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté que Dieu veut nous donner. Puis le tome 3, saisis ta chance. Comprenez entre guillemets quand j'emploie le mot chance. Saisis l'occasion. Si tu réalises que tu es pécheur puis que tu peux rien faire pour obtenir ta liberté, si tu réalises que Dieu te tend la main, qu'il veut te pardonner, qu'il veut t'affranchir, ben, saisis l'occasion. C'est une fois un homme qui marchait proche d'un ravin et puis il perd pied, puis il s'apprête à glisser dans le ravin, mais au dernier instant, il réussit à accrocher une branche. Puis là, il est tout seul. Puis là, l'homme, au secours, à l'aide! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? Puis là, il entend une voix. Oui, je suis là. Je peux t'aider. Là, l'homme, c'est qui? Ça, c'est qui? Ben, c'est Dieu. Je suis là. Lâche tout. Je vais t'attraper. Y a-tu quelqu'un d'autre? On ressemble-tu à ça un petit peu des fois, hein? Oui, Dieu, t'es là, je sais que t'es là, mais y a-tu quelqu'un d'autre? Dieu te tend la main. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. C'est Dieu qui veut te donner la liberté. Cette rencontre qui allait bouleverser la vie d'Onésime. On aurait pu penser que c'était cette légende de la foi, Paul, Saul de Tarse, cet homme que peut-être Onésime allait penser qu'il pouvait changer sa vie puis lui donner des bons conseils. Mais on se trompe. Paul n'avait rien à voir dans la rencontre. C'est Dieu. En fait, cette rencontre inattendue était inattendue pour Onésime, mais attendue par Dieu. Si Onésime est arrivé dans un cul-de-sac, puis il n'a plus d'issu, Dieu y est là, puis il l'attendait. Parce qu'il veut le rencontrer. Parce qu'il veut te rencontrer. Est-ce que tu es dans une situation présentement dans ta vie? Tu te dis, je suis dans un cul-de-sac. Je ne peux pas m'en sortir. Dieu veut te rencontrer. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ça. Mais Dieu, il t'attend. Dieu veut te rencontrer. Comment un Dieu si grand peut vouloir de moi? Comment un Dieu si saint peut me tendre la main? Quoi qu'il en soit, c'est vrai. Onésime, un esclave en fuite, fugitif, que Dieu, créateur de l'univers, veut rencontrer. On peut s'identifier à chacun d'entre nous à Onésime. Dieu te tend la main. Saisis ta chance. Saisis l'occasion. Est-ce que tu veux être libre? Tu veux être libre de tes péchés. La prison éternelle est beaucoup plus fatale que les prisons terrestres qu'on peut rencontrer. De Pierre 3, 8 et 9 nous dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La perspective de Dieu est beaucoup plus large que notre perspective très limitée. Et Dieu ne tarde pas dans ce qu'il va accomplir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Saisis ta chance. Si tu réalises ce matin que tu es esclave de tes péchés, que tu es dans un cul-de-sac, saisis la main que Dieu te tend. Dieu désire nous pardonner. Puis il a tout fait pour que ça soit possible. La conséquence de nos péchés, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Onésime, est-ce que tu réalises ça? Réalises-tu que ton nom utile devrait signifier de quoi dans ta vie? Réalises-tu que tu peux être libre pour l'éternité? Est-ce que chacun d'entre nous, ce matin, on réalise ça? La conséquence de nos péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour prendre ta place, pour prendre ta vie, pour prendre tes péchés, parce qu'il veut te pardonner. Et ça, c'est concret. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai pour une perspective éternelle. J'aimerais qu'on prenne un temps, qu'on va baisser nos têtes,